bonjour à tous et à toutes, enfin à toutes et à tous, si on met dans le bon ordre. Bonjour et Étienne, merci d'être avec nous. Donc, juste en face, là, on a le Collège de Cognat, qui participe au festival depuis, longtemps. Soyons très précis, très longtemps. Donc, beaucoup de jeunes ici ont eu l'occasion, au fur et à mesure des années, de rencontrer des tas d'auteurs, et sûrement, ça leur fait des petites graines pour plus tard. Et voilà, donc merci déjà aux enseignantes d'être engagées auprès du festival et de lecture plurielle depuis si longtemps, de mener la lecture contemporaine là où elle doit être, parmi sa jeunesse. Et voilà, donc on va commencer. Alors, Étienne Kern, vous le connaissez, bien sûr, puisque la meilleure manière de connaître un auteur, c'est de le lire. Et vous avez donc lu, entre autres, Les Envolées. Parce qu'ils ne se limitent pas à un auteur. Ils lisent beaucoup d'auteurs, ils choisissent, ils votent, ils argumentent. Et voilà. Ils ont déjà fait une première opération en allant à la médiathèque de leur bourg, enfin de la petite ville qui joue ce jeu Chambéry à Cognat, où ils ont rencontré donc les adultes, pas forcément les plus jeunes, d'ailleurs. Ça fait beaucoup de fraîcheur à l'intérieur de la bibliothèque. Et ils ont pu déjà présenter les œuvres, des dessins. Ils n'ont pas ramené cette fois-ci. C'est pas grave. Et puis, il y avait un accompagnement musical aussi, qui était très chouette. Des jeunes très engagés. Et c'était vraiment quelque chose de touchant. Voilà. C'est pour ça que j'ai des adjoints aujourd'hui qui... normalement, doivent pratiquement faire mon boulot. Voilà. Donc, Étienne Kern, donc, première des choses, on commence par le top, c'est-à-dire qu'il vient de recevoir le prix Goncourt du premier roman, qui est vraiment un super cadeau, on pourra l'interroger dessus. Un très beau parcours pour Les Envolées. Et on est content à Chambéry parce que c'est pas la première fois que les lecteurs et notamment les élèves aussi ont bon goût. L'an dernier, il y avait Emilienne Malfatto qui a été récompensée de la même manière. On a eu Laurent Binet. Enfin, voilà, c'est des promotions tout à fait satisfaisantes. Mais nous, on n'a pas de prix à Chambéry. Alors, je peux leur expliquer en même temps pourquoi. C'est juste une petite minute pour leur laisser la parole après. Tout simplement parce que Chambéry est né pratiquement en réaction contre le prix. C'est-à-dire qu'on s'appelle lecture plurielle, c'est pas pour rien. Et tout simplement parce que quand on voit tous les auteurs qu'on a ici, nous, on pourrait pas attribuer un premier prix à un des auteurs parce que les lectures, on peut pas dire qu'elles sont toutes équivalentes, mais en tout cas, elles sont plurielles. Et toujours avoir le meilleur ou on n'en sait rien, le meilleur, effectivement, comment ça se passe. Le grand jeu des prix littéraires étouffe une partie de notre littérature contemporaine aujourd'hui. Voilà. Donc, nous, à Chambéry, on tient bon parce qu'on nous a même proposé de l'argent pour avoir des prix. Voilà. Et on a toujours dit non, 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 non. Voilà. Et on tient à avoir le nom de lauréat du Festival du Premier Roman. Donc, Étienne Kern est professeur dans la vie. Le monsieur là-bas vous a précisé qu'il avait fait effectivement la plus prestigieuse des écoles françaises, à savoir Normale Sup, qui se passe après deux années de classe supérieure, de lettres supérieures qu'on appelle, avec un nom très ronflant, Hippocagne, puis Cagne. Voilà, et on passe à un concours archi-difficile, c'est-à-dire autant dire que c'est pratiquement deux ans de monastère, un petit peu, hein, pour arriver à travailler et à rentrer dans cette école. Une fois qu'on lit, c'est assez génial, parce que d'abord, on est payé. Ça, c'est la fête. Et puis, on a effectivement la chance d'être auprès des plus, on peut dire, grands professeurs et intellectuels, on peut dire, en France. Voilà, hein, on peut dire ça. Et après, ben, voilà, on est tout auréolé de son normalien supérieur. Vas-y, Étienne.
D'abord, bonjour à tous. Bonjour Dominique, bonjour Sarah et Amine. Je suis très intimidé par cette introduction. Je veux dire, je vais forcément être décevant parce que c'est pas l'enjeu, en fait, hein, mon parcours scolaire. Et ce prix, c'est sûr que ça me fait plaisir, mais ça ne change pas grand-chose à mon plaisir d'être ici. Et effectivement, je trouve super qu'il n'y ait pas de concurrence au sein des nombreux lauréats du Festival du Premier Roman à Chambéry. Il faut que ça reste comme ça.
Voilà, ben, merci. Non, c'est parce que ça avait été introduit comme ça, donc je me suis dit, autant préciser tout de suite si ça peut être aussi intéressant dans leur parcours scolaire pour eux, puisqu'on a ici essentiellement des collégiens, de savoir qu'il est possible, parce que beaucoup ignorent qu'il est possible d'eux. Voilà, donc on va y aller. Alors, donc Étienne est professeur dans un lycée en classe prépa à Lyon, et il a publié déjà pas mal d'essais en compagnie de sa compagne. Voilà, vous pouvez regarder tout ça, c'est marqué sur Internet. Et là, il est passé donc au roman. Donc, Les Envolées, qu'est-ce que c'est Les Envolées? Tout le monde l'a lu ou pas? Peut-être pas tous, hein, quand même. Bon, je vais faire vraiment un pitch très, très court. Hein. C'est à partir d'un très court film aussi datant de 1912 qui est visible effectivement sur Internet, sur toutes les plateformes, sur la mort de Franz Reichel, et qui a cette idée d'essayer absolument son parachute pour prouver que son invention est absolument géniale, en évitant, qui pourrait permettre d'éviter la mort de bon nombre d'aviateurs, dont un de tous ses amis aviateurs. Et il prend son envol, qui ne sera qu'une chute finale, donc vers la mort, au pied de la Tour Eiffel. Voilà, donc Étienne Kern va reconstruire complètement la vie de cet homme, qui va devenir un véritable personnage de roman, avec beaucoup de tendresse et auquel on va s'attacher de manière assez... Il habite, il existe maintenant, notre Franz Reichel. Et ce sera aussi d'autres vies en parallèle dont va nous parler le narrateur-auteur, dont Helmut, le grand-père, et M, son ami. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et quelque chose à dire, réaction à ce pitch très court.
Oh, tu as tout dit, Dominique. Ça s'appelle Les Envolées au pluriel parce que, en fait, il y a plusieurs personnages dans ce livre. Il y a l'histoire vraie, ce qui se passe en 1912, avec cet homme qui saute de la Tour Eiffel à 57 mètres du sol, depuis la première plateforme, et qui tombe comme une masse en 3 ou 4 secondes. Et il y a deux figures qui me sont beaucoup plus proches, qui, elles aussi, sont liées au motif de la chute et de la mort, puisque Helmut, c'était le prénom de mon grand-père, il était allemand. Et il est mort en tombant d'un balcon. Il était appuyé à un balcon et à un moment ça s'est cassé, la balustrade s'est cassée, il est tombé avec. C'était avant ma naissance, mais j'ai grandi avec cette espèce de traumatisme inscrit dans la famille, parce que c'est évidemment quelque chose de terrible pour ma mère et c'est présent dans la famille. Donc j'ai grandi avec la mémoire de ce scénario de la chute. Donc quand j'ai vu les images de Reichel en 1912, tout de suite j'ai pensé à ce grand-père. Et un peu plus tard, malheureusement, j'avais une amie qui était très malade, qui avait une maladie au cerveau et qui a fait le choix à un moment de sauter par la fenêtre de son appartement à Paris. Il avait le choix de se suicider, quoi. Et par une chute aussi. Donc ces trois chutes, la Tour Eiffel, mon grand-père et cette amie. Cette chute mystérieuse, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il cherchait en 1912, Franz Reichel. La chute accidentelle de mon grand-père et la chute voulue de mon ami s'entremêlent dans ce livre. Voilà.
Sarah ?
Comment avez-vous découvert l'histoire de Franz Reichel et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'en faire un roman?
Alors, je suis tombé dessus par hasard. Comme l'a rappelé Dominique tout à l'heure, il y a cette vidéo, ce vieux film en noir et blanc. Ce qui est extraordinaire avec la mort de Reichel, c'est qu'elle a été filmée. Déjà, c'est extraordinaire en soi, je veux dire, un type qui saute la Tour Eiffel. Mais c'est resté dans notre mémoire parce que c'est filmé. C'est même la première fois dans l'histoire qu'une caméra saisit la mort d'un homme en direct. Il y a déjà eu des exécutions publiques, en fait, qui ont été filmées, mais pas une mort qui n'était pas prévue, une mort accidentelle. C'était tourné parce qu'à l'époque, il y avait... c'était évidemment avant le JT à la télé, etc. Hein, mais il y avait des courts-métrages d'information dans les salles de cinéma, avant les films. Et donc, quelques minutes comme ça de nouvelles, en muet, quoi, sans bande sonore. Et donc, des reporters étaient là pour alimenter le court-métrage d'information et ils ont saisi cette mort en direct. Donc ce film existe et on le trouve très facilement sur YouTube, Dailymotion, tout ça. Et c'est sur Internet que je suis tombé dessus par hasard, parce que ça devait être un jour anniversaire, c'était le 4 février 1912, et le 4 février, je sais pas, 2016, je crois, je suis tombé sur un site Internet qui disait « Il y a 105 ans, 6 ans, je sais plus, enfin, 100 et quelques années, cette histoire a eu lieu. » Et il y avait un lien vers la vidéo que j'avais jamais vue. Alors, je sais pas si vous l'aviez déjà vue avant ou pas. Parce que, par exemple, sur YouTube, il y a des millions de vues, il y a des tas de gens, puis il y a des centaines de commentaires en dessous. Moi, je ne l'avais jamais vu, je suis tombé dessus. Et ça m'a tellement fasciné et bouleversé, pour plein de raisons, parce que c'est étonnant en soi. Je veux dire, la Tour Eiffel, on connaît tous sa silhouette, c'est un peu légendaire comme endroit. Et au début, quand on voit le film, on ne s'attend pas à ce qui va se passer. Il est tout souriant, il nous montre sa casquette, il nous montre son parachute, tout ça. Et 1 minute 30 après, il est mort. J'étais absolument scotché par ces images. Et comme il y avait en plus la mémoire de mon grand-père, je me suis senti concerné. Et là, je me suis dit, mais ce bonhomme en noir et blanc, dont on ne sait à peu près rien, peut-être qu'il y a moyen de lui donner un peu vie, quoi, un peu de couleur et un peu de voix. C'est en noir et blanc, il n'y a pas de bande sonore. Donc je vais essayer de mettre un petit peu de couleur et des mots, des paroles, pour faire vivre un peu ce bonhomme. Et comme il y a eu mon grand-père et mon ami Muriel, qui devient M dans le texte, j'en parle aussi un petit peu. Voilà, c'est parce que je me suis senti concerné par ces images que je me suis dit, mais c'est sur lui que je vais essayer d'écrire.
D'accord. Combien de fois êtes-vous monté sur la Tour Eiffel et avez-vous ressenti le besoin de vous rendre à l'endroit précis où Franz a sauté?
Alors, j'ai dû aller sur la Tour Eiffel 2 ou 3 fois, mais il y a longtemps. Quand je devais être au collège, genre avec mes parents, un petit passage à Paris, j'ai dû y retourner quand j'étais à Paris comme étudiant. Je dois faire 2-3 fois en tout. Je n'y suis pas retourné pour écrire. Aussi pour une raison bête, c'est que depuis les attentats, tout ça, c'est plus comme avant la Tour Eiffel. On ne peut plus passer en dessous, sous les arches. Il y a des espèces de barrières en plexiglas. Enfin, ça n'avait pas très envie, quoi. Je pense que s'il n'y avait pas eu ces barrières en plexiglas, j'y serais retourné pour être sous la Tour Eiffel. En fait, il a sauté depuis... Enfin, la Tour Eiffel, c'est creux. Il a sauté vers l'intérieur de la Tour Eiffel, la rambarde intérieure. Donc il est vraiment tombé sous l'arche, quoi, sous les 4 piliers. Je pense que j'y serais retourné, mais comme c'est plus possible, ça ne m'a pas paru nécessaire.
D'accord. Et pourtant, dans le roman, il y a une déambulation après qui ramène du narrateur.
Oui, mais qui ne part pas de la Tour Eiffel.
Qui part pas de la Tour Eiffel.
Non, qui part de l'endroit où il habitait. En fait, on ne sait pas grand-chose hein, de Reichelt, mais on sait quand même 2-3 petites choses. On connaît son adresse, on sait où il habitait. On a même conservé, c'est un historien qui a exhumé ça, on a conservé les papiers faits par les notaires à sa mort. Et le notaire énumère ce qu'il y avait chez lui et ce qu'il possède, un inventaire de succession. Et donc on sait, les chemises, les mouchoirs, les meubles qu'il avait chez lui. Donc ça m'a permis d'imaginer un petit peu sa vie. Mais en tout cas, on connaît son adresse. Et j'ai voulu que cet homme soit ancré dans un espace. C'est un rêveur, parce que c'est un peu fou ce qu'il a fait. Je veux dire, son parachute qui ne marche pas, il veut l'essayer lui-même. C'est un rêveur. Donc j'ai voulu faire de lui aussi un promeneur. Il rêve, il marche dans Paris, il regarde le ciel, il regarde les arbres. Il n'est pas très ancré dans les interactions sociales, dans le monde réel, dans le quotidien. Et donc ce côté rêveur se traduit dans l'espace. Et du coup, j'ai moi-même arpenté Paris pour restituer ce qui pouvait être ses promenades.
Sarah, pardon.
Alors.
Alors, de toute façon, on ne peut pas deviner, enfin, on peut essayer d'imaginer. Mais quand on est actuellement sur la plateforme de la Tour Eiffel, derrière la rambarde, on n'est pas non plus comme il l'a été lui, debout sur une chaise. Posé sur une table avec un pied sur la rambarde pour qu'il soit à la même hauteur que la rambarde. Et donc on ne peut pas deviner ce que c'est cette peur et en même temps cette fascination pour le trou, cette envie de sauter.
Sarah. Alors, les femmes présentes dans le roman, Emma, Louise et Alice, ont-elles réellement existé dans la vie de Franz?
Louise, c'est le personnage de son employé qui travaille pour lui, il était tailleur pour dames, il était couturier si vous voulez. Et dans la vraie vie, il employait une certaine Louise, qui était à la fois couturière et qui faisait du ménage dans son appartement. Et cette femme a existé, on le sait, parce que tout à l'heure, je parlais des papiers laissés par les notaires. En fait, il y a un testament qui a été écrit par Franz Reichelt la veille du sceau, le 3 février 1912, et dans son testament, il demande que l'argent qu'il a soit légué à Louise. Ce qui est à la fois très, très beau et très touchant, parce qu'il est, il est très généreux, enfin, il n'a pas beaucoup d'argent, mais il tient à ce qu'il a, il tient à l'idée que ce qu'il a soit donné à son employé. Mais ça veut aussi dire qu'il est tout seul. Parce que s'il veut léguer ce qu'il a à son employé, c'est qu'il n'a pas de compagne, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille proche, sauf sa sœur, mais il ne s'entend pas avec sa sœur.
Alors comment tu le sais qu'il ne s'entend pas avec sa sœur?
Mais parce que dans le testament, il demande que sa sœur n'ait rien. Il demande que Katharina ne reçoive rien. On n'en sait rien de Katharina, enfin, mais il y a forcément un conflit entre les deux. Ce testament nous donne accès en fait, à des choses de sa psychologie, de sa vie. Puisqu'on voit aussi dans le testament, c'est qu'il écrit très mal français. En fait, il parlait allemand, naturellement. Il est né, à l'époque, c'est la Bohème, c'est-à-dire une partie d'un empire qui est l'empire d'Autriche-Hongrie. Aujourd'hui, c'est la République tchèque, mais à l'époque, il est considéré comme autrichien, en fait, à Paris. Et il parle allemand. Ou quand il parle français, c'est avec un gros accent qui déforme les mots. Et son testament écrit en français, et dans un français un peu phonétique, quoi, un peu langage SMS. Et il devait être isolé aussi par sa manière de parler français. Il devait être un peu marginal. Et on l'imagine seul, et c'est, enfin, ça m'a beaucoup touché. Donc je reviens à la question de Sarah. Donc Louise, l'employée, a existé, c'est sûr. Emma, dans le bouquin, c'est la femme ou la veuve d'un autre personnage qui s'appelle Antonio, qui était aviateur, qui est un personnage historique. Antonio Fernandez est l'un des premiers pilotes d'avion à être mort dans un crash. On est vraiment au début de l'histoire de l'aviation. Et Antonio est mort en 1909. Ça fait guère que 2-3 ans que des gens trouvent la mort dans des crashs. Il avait construit lui-même son avion et puis à un moment, il est tombé, quoi. Et il se trouve que Antonio Fernandez était, comme Franz Reichelt, tailleur pour dames. Il était couturier lui aussi, au même endroit, à Paris. Mais à un moment, il a tout plaqué pour construire son propre avion. Et donc j'imagine qu'ils ont été très amis et que le parachute inventé par Franz, c'est un peu ce qui aurait pu, a posteriori, après coup, sauver la vie de son ami Franz. Antonio, pardon. Bon, Antonio a existé. Antonio était marié à une femme qui s'est appelée réellement Emma. Mais en fait, je ne sais rien de la vraie Emma Fernandez. J'imagine dans le bouquin qu'elle revient à Paris et que Franz et elle tombent amoureux, mais c'est de la fiction. Mais enfin, elle a existé, au moins, le nom d'Emma Fernandez correspond à une personne réelle. Et il reste, vous m'avez dit, je crois, Alice. Alice, c'est l'enfant, c'est la fille de Louise, l'employée. Et non, là, c'est un personnage de fiction.
Et pourquoi avoir adjoint? C'est pour apporter de la douceur, de la certaine forme de... pas de compassion, parce que c'est pas ça le truc, mais apporter effectivement une humanité supplémentaire à cet homme, au personnage, à oui. Franz.
Oui, alors plusieurs choses. Il était tailleur pour dames, donc je lui prête assez naturellement un entourage très féminin, avec à la fois des femmes et des jeunes filles, des petites filles, parce qu'Alice est toute petite. Mais effectivement, il s'agit de lui donner de l'humanité qui passe par le rapport à l'autre. Il n'est pas tout seul, il n'est pas isolé. Enfin, il est isolé socialement, on est d'accord, mais il y a malgré tout quelques figures qui comptent pour lui. Et je voulais que le parachute qu'il invente soit toujours pour quelqu'un. C'est aussi une manière de donner un sens en fait, à ce qu'il fait. Après coup, son parachute n'est pas gratuit. Il n'est pas gratuit au sens... Enfin, c'est pas absolument absurde, c'est pas vain. Il le fait pour quelqu'un. Il le fait d'abord pour son ami aviateur qui est mort, puis il le fait pour sa veuve, puis il le fait pour la petite fille. Il s'agit à chaque fois de faire du parachute un cadeau pour quelqu'un. C'est pour ça que je voulais qu'il ne soit pas absolument tout seul.
Alors, son isolement, est-ce qu'il est dû aussi, c'est évoqué un moment, après, donc, on n'est pas si loin que ça de la fin de la guerre de 70, même si les choses ont passé, où la France a été, ça vous dit quelque chose? On lui a volé l'Alsace et la Lorraine. Et donc, revenir après, habiter, effectivement, pour quelqu'un de langue allemande à Paris, est-ce qu'il y a eu un peu d'enquête là-dessus? C'est évoqué. Est-ce que ça peut ajouter à son isolement? Ou est-ce que ça peut...
Oui. Alors, il y avait toute une communauté germanique, allemande, autrichienne, à Paris, à l'époque. Et souvent, ils sont couturiers, justement. Il y a une tradition du rapport aux vêtements. qui vient des pays germaniques. Et c'est sûr que ça ne devait pas être très, très facile à Paris à l'époque, pas à cause de la Première Guerre mondiale, parce qu'on est avant, mais à cause du souvenir de la guerre précédente, qui est très lointaine pour nous aujourd'hui, mais qui à l'époque était assez proche, qui est la guerre de 1870-1871, quand les Prussiens, donc une partie de l'Allemagne en fait,
les Uhlans.
Oui.
De mots passants, si jamais vous avez fait des petites nouvelles, même vous êtes Fifi, tout ça, non, peut-être.
Donc là, voilà, la France est envahie et l'Alsace et la Lorraine sont annexées à l'Empire allemand.
Alors, est-ce que cette annexion, en même temps, je rentre peut-être un peu dans l'intime de l'auteur, a quelque chose d'important, puisqu'il est précisé quand même que le grand-père est allemand. Est venu en France. Est-ce que tu peux un peu dire des choses là-dessus ?
C'est un hasard, en fait. C'est le hasard de la vie qui veut qu'il y ait de vagues parallèles. C'est quand même pas la même histoire. Mais des résonances, des échos entre Reichelt et mon grand-père. Donc, effectivement, mon grand-père était allemand, donc du mauvais côté, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il a été fait prisonnier par l'armée française en 1945, et il est resté prisonnier en Alsace. Il y avait quelques camps comme ça où il y avait des prisonniers allemands, et certains sont restés en France après, parce qu'il s'est marié en fait en Alsace avec ma grand-mère alsacienne. Et une fois, je l'ai pas connu, mais une figure de la mémoire familiale. Et il a jamais appris le français, aussi parce qu'en Alsace, il pouvait se débrouiller avec trois mots d'alsacien, trois mots d'allemand, trois mots de français. Et donc j'imagine que ce grand-père était aussi maladroit lorsqu'il devait parler français un tout petit peu que Franz Reichelt en 1912. Donc c'est surtout par le rapport à la langue, plus que par le rapport vraiment géographique ou politique aux frontières. Ça passe par la langue.
Ça permet de comprendre un peu pourquoi tant de tendresse à l'égard de Franz.
Oui, je crois. Il y a des moments où je tutoie le personnage de Franz. Ben, c'est aussi un peu le tutoiement affectueux qu'on peut avoir pour son papy, quoi.
Voilà, donc ça se sentait assez fortement.
Alors, le thème de l'aviation est très présent dans votre roman. Est-ce une activité que vous pratiquez vous-même ou quelqu'un de votre entourage ?
Oula, non, surtout pas. Non, je n'ai jamais fait ça. C'est pas intéressant, mais j'ai plutôt peur dans l'avion. Je n'aime pas ça du tout. Mais sûrement, encore une fois, à cause du grand-père, je veux dire, c'est un scénario, celui de la chute, qui est ancré en moi. Et c'est vrai, quand je suis dans un avion, je suis à peu près sincèrement convaincu qu'à un moment, il va tomber, que ce n'est pas possible. Et j'ai été marqué, évidemment, comme plusieurs générations, par le 11 septembre 2001, avec les avions dans les tours à New York. Et donc, moi, j'associe l'avion à la chute, à l'explosion, à l'attentat, maintenant aussi au bilan carbone, à la pollution, enfin, à tous les désastres, en fait, tout ce qui nous menace. Alors qu'en 1912, l'imaginaire de l'avion est différent. Je veux dire, l'avion, c'est tout nouveau. Donc, on est tout fou, plein d'enthousiasme, plein de candeur, de fraîcheur, en disant, mais les avions, c'est super, c'est le progrès. Il y a des gens un peu fous qui construisent eux-mêmes des avions, comme Fernandez. Et on a perdu cette idée que le progrès est forcément quelque chose de bien, qui va nous apporter quelque chose. C'est de la belle époque, avant la Première Guerre mondiale. Et on a perdu cet enthousiasme un peu naïf de la belle époque.
Pourtant, on essaie toujours maintenant avec des avions électriques, avec des avions moins consommateurs d'énergie. On essaye toujours. Et c'est quand même il y a toujours pas mal d'enthousiasme à l'égard de l'avion et des petits avions. Je vois rien qu'ici, je ne sais pas, le week-end dernier, il y en avait beaucoup qui volaient, des petits avions, il y avait les fêtes des vieux terrains d'aviation dans le bassin, les deux terrains. Voilà. Il y a toujours de l'enthousiasme à l'égard de ça, y compris des acrobaties. Ça veut toujours dire quelque chose. Sarah ?
Comment avez-vous découvert le film de 1912 sur le saut de Franz Reichelt et combien de fois l'avez-vous visionné pour le décrire avec autant de détails dans votre roman ?
Je l'ai vu plein de fois, j'ai pas compté, mais il y a quelque chose d'un peu obsessionnel. Déjà, j'étais tellement fasciné que je l'ai regardé en boucle. Ça dure 1 minute 37, donc c'est facile de cliquer sur retour, quoi. Je l'ai regardé plein de fois dès le début, et puis après, évidemment, quand j'ai commencé à écrire sur lui, rien que pour décrire la vidéo, je veux dire, les quelques pages qui décrivent la vidéo, sont nourries de dizaines de visionnages. Et je ne l'ai pas revu depuis longtemps, parce que maintenant j'en ai moins besoin. Mais oui, en des centaines de fois.
Alors c'est très étrange que moi je ne l'avais jamais vu. Et après avoir lu le roman, donc au mois de juillet ou août, je ne sais plus, je me suis dit je ne peux pas aller le voir. Parce que je savais comment ça se terminait. Donc ça c'était quelque chose de difficile. Tu veux le lire tout de suite ou... Non, pardon. Et je ne pouvais pas. Et puis, mon compagnon m'a dit, je suis allée le regarder. J'ai dit, ouais, mais moi, je ne veux pas voir la fin. Donc, j'avais vraiment eu un sentiment de voir la mort en face et que je n'avais vraiment pas envie de ça, quoi. Donc, est-ce que vous avez eu un peu les mêmes choses ? Tu n'es pas responsable. Tu as juste donné envie d'aller voir la fin. Voilà.
Ce qui est assez significatif et perturbant, c'est qu'on va voir les commentaires des gens sur YouTube, par exemple. Parce qu'il y a des dizaines de gens qui disent « Oh là, trop marrant, pété de rire, tout ça, la honte. » Et vous avez des palmarès des morts les plus débiles de l'histoire et il est dedans. Parfois, en fait, on fait de France un personnage vraiment drôle, un personnage ridicule, la mort débile. Je comprends un petit peu. Je comprends parce que, comme c'est un vieux film en noir et blanc, ça nous paraît très irréel. Le noir et blanc déréalise. Et comme en plus, il n'y a pas de son, on n'entend pas le cri qu'il a forcément poussé. Si on avait une vidéo récente avec des couleurs et des cris, en fait, la vidéo, elle serait interdite. On ne pourrait pas la voir sur Internet. Ce serait comme les exécutions des talibans, je ne sais pas quoi. Enfin, on ne pourrait pas la voir. Et donc, comme c'est déréalisé, on ne la prend pas au sérieux. Alors que les gens qui ont été là, il y avait une trentaine de personnes en bas, puis il y a les deux personnes derrière lui en haut, plus le caméraman qui est aussi en haut. Ils ont vu quand même mourir en direct l'un des leurs, l'un des nôtres, sans rien faire. Oui. Alors après, les deux personnes qui sont derrière lui, on ne sait pas trop qui c'est d'ailleurs, mais c'est probablement des gens qui étaient là pour homologuer le possible résultat ou record ou je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, ils participaient à un concours. Un concours organisé pour récompenser l'inventeur d'un parachute qui serait destiné aux aviateurs. Donc je pense que c'est des gens de la Ligue aérienne de France ou des je sais pas quoi, ou des ingénieurs, ou enfin des gens qui s'y connaissent un petit peu et qui doivent prouver qu'il n'y a pas eu de triche. Ils ne devaient a priori pas avoir le droit d'intervenir. Mais ils ont forcément vécu avec la mémoire de ce qui s'est passé.
Vas-y, Amine.
Donc dans le passage que je vais lire, et bah en fait le narrateur il explique justement la vidéo, enfin vous décrivez la vidéo de France Richel qui s'apprête à sauter de la Tour Eiffel. Il existe un film aussi. C'est un vieux court-métrage en noir et blanc, sans bande sonore. On doit les images à deux caméramans qui s'étaient postés, l'un sur la plateforme de la Tour Eiffel, l'autre 57 mètres plus bas sur le champ de Mars. Elles sont déchirées de zébrures. Des taches blanches y font comme des flocons. Au début, tu es encore en bas. Derrière toi, des arbres décharnés, des lampadaires se découpent sur le fond gris. À l'arrière-plan, quelques immeubles dessinent une ligne claire sous le ciel. Les traits de ton visage dans l'ombre, tu décroises les bras et, lentement, tu commences à tourner sur toi-même. Tu nous montres quelque chose, cette grosseur tout contre ton dos dans laquelle tu mets tes espoirs, ton parachute. Te voici de nouveau face à nous. Tu soulèves ta casquette pour saluer la caméra. Tes moustaches se recourbent légèrement, tu souris. Changement de plan. Ton corps est recouvert d'un grand drap de couleur sombre. Deux pointes de tissu s'élèvent au-dessus de tes épaules. À mesure que tu agites les bras, le bas de la combinaison se ratatine. Tes gestes sont maladroits, saccadés, bouffons. Tu es en haut, sur la plateforme du premier étage. Tu es debout sur une chaise, la chaise est posée sur une table. Sur la droite, un peu plus bas, deux autres hommes. L'un d'eux porte une casquette et une écharpe. Il inspecte ta combinaison et t'adresse des encouragements. Le second, coiffé d'un haut de forme, demeure immobile, les mains crispées sur sa canne. Son visage est grave, impénétrable. Vous avez froid tous les trois. Dès qu'il le peut, l'homme à la casquette enfonce les mains dans ses poches. De la buée sort de ta bouche. Tu respires de plus en plus vite. Toujours sur ta chaise, tu regardes autour de toi. Tu cherches quelque chose dans les yeux des deux autres. L'autorisation, peut-être, de ne pas poser à ce qui t'attend. Puis, tu replies les bras, tu secoues la grande toile qui se tord dans ton dos et tu poses le pied droit sur la rambarde. Léger travelling latéral. Les deux compagnons sortent peu à peu du champ. Sur la gauche s'ouvre un abîme. 39 secondes s'écoulent. Le gouffre t'effraie autant qu'il te fascine. Tu te penches, te rejettes instinctivement en arrière. Te penches à nouveau, recules, te courbes vers l'avant, retiens ton souffle un long moment puis finis dans un grand nuage de buée par sauter.
Merci.
Une réaction sur cette lecture ?
Je suis très ému d'entendre mon texte lu par un ami, par un collégien, par un jeune lecteur. Je trouve ça très touchant. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'était une très, très belle lecture.
Ouais, moi aussi, j'étais très... tout à l'heure, à l'autre rencontre aussi, j'étais très, très touchée par leur lecture parce qu'il n'y a aucun surjeu. Y a pas de... C'est une belle lecture. On sent bien que... Il y a la description qui est faite. C'est un texte qui touche beaucoup.
Oui. Mais je voulais que ce soit sobre, dépouillé. D'abord parce que c'est tellement triste, terrible ce qui lui arrive, qu'il me paraîtrait dommage d'en rajouter avec un style hyper chargé, des appels à la pitié, des figures, des métaphores, tout ça. Je voulais quelque chose de simple. Parce que quand c'est simple, c'est plus juste et donc c'est plus émouvant. Et il me semble aussi que la simplicité de la langue permet de correspondre un peu plus à la simplicité de cet homme. Parce qu'il était un peu naïf, il était un peu rêveur, il était un peu simplé, en fait. Parce que, je ne l'ai pas encore dit, mais enfin, vous l'avez compris, son parachute, ça ne pouvait pas marcher. Tout le monde lui avait dit que ça ne marcherait pas. Il s'est aveuglé, comme un gosse obsédé par son rêve, par son jouet. Il veut absolument y aller, il n'écoute personne, il est archi têtu. Et donc, je voulais être au plus près de ce côté un peu naïf, un peu simple, voilà.
Oui, ben, d'accord.
Oui, bien sûr. Oui, la vidéo fait penser à Charlie Chaplin ou à Buster Keaton. C'est-à-dire, en fait, à des acteurs d'abord de cinéma muet qui ont un jeu hyper expressif. Il faut que ce soit hyper lisible. Il faut que le corps soit lisible quand le cinéma est muet. Donc, des gestes, justement, saccadés, exagérés, etc. Cet aspect irréel de la vidéo peut rappeler ces vidéos comiques de l'époque et donne une dimension comique à cette histoire. Mais un comique triste, en fait, comme chez Charlie Chaplin. Un comique triste parce qu'il résume, en fait, plus généralement, c'est un grand mot, mais bon, la condition humaine. Il y a une dimension à la fois ridicule et grande et tragique. Tout ça est résumé dans France.
C'est mieux que le micro. Donc, par rapport à la robe qui est du début à la fin, est-ce qu'elle apparaissait dans le testament ou est-ce que ça...
Ah non,
c'est
alors
qui l'avez créée,
cette robe. La robe n'est pas dans le testament, c'est vrai, ça aurait pu. Non, c'est une invention de ma part. C'est un tailleur pour dames, donc il faut bien un moment qu'il ait fabriqué des robes. Mais je voulais que cette robe soit une sorte de première version du parachute, une sorte de prototype du parachute. Parce que cette robe, dans l'histoire, a été conçue par Franz pour quelqu'un. Pour cette autre femme qui s'appelle Martha, un amour de jeunesse qu'il a perdu. Et finalement, c'est la même histoire, c'est la même relation à quelqu'un. Il coud quelque chose, il coud du tissu, une robe, puis un parachute, pour quelqu'un. Et à chaque fois, ça ne débouche rien, parce que la robe il l'a fait pour quelqu'un qui, finalement, entre-temps, meurt et ne pourra jamais la porter. Et le parachute, comme il n'est pas opérationnel, est voué au néant.
Dans vos dessins, il y avait, je me semblais pas avoir vu la robe. Il y a personne qui s'est qui a imaginé, parce qu'elle est quand même décrite avec une précision. Hein. J'ai pas vu de robe. Non, hein, je me trompe pas hein, dans ce que vous aviez représenté. Moi, j'aurais bien aimé la voir réalisée. En même temps, elle est décrite avec tellement de précision entre les couleurs, les si. Il y a une phrase lignes. D'ailleurs qui est sur une vitrine quelque part qui insiste bien sur cette description-là.
Oui, donc, je ne la visualise pas, la robe, hein, moi. J'ai voulu la suggérer en quelques mots et puis chacun la dessine dans sa tête.
Ah ben moi je l'ai vraiment dessinée alors. Bon, ce n'est pas très important, l'important c'est eux en face. Oui elle, mais ce n'est pas n'importe quel gris.
Elle est grise comme le cahier gris où il y a les photographies.
Alors les autres photos, on peut en parler puisque tu as introduit les photographies. Après je redonne la parole tout de suite puisque
c'est vrai
c'est vous les interrogateurs.
Dans le texte, il y a la vidéo que je décris plusieurs fois et il y a aussi plein de photos. Ces photos existent, elles ne sont pas reproduites dans le livre, hein, c'est un choix. De toute façon ça aurait coûté de plus cher s'il y avait eu des photos dans le livre. Ces photos, on les trouve aussi sur internet. Alors il y en a pas mal qu'on trouve directement sur Google par exemple, hein, mais pas toutes. Je les ai trouvées dans les journaux de l'époque. Parce qu'à l'époque, ça a quand même marqué les esprits, cette mort accidentelle à la Tour Eiffel. Donc il y a plein d'articles dans le Figaro, enfin les journaux de l'époque, je veux dire, il y avait déjà le Figaro, mais d'autres ont beaucoup ont disparu. Il y a une vingtaine ou une trentaine d'articles dans les journaux de l'époque qui ont déjà des photos en noir et blanc. Et ce qui est bien, c'est que ces articles de journaux ont tous été numérisés par la Bibliothèque nationale de France, ce qui fait que depuis chez moi, j'ai pu... en quelques semaines, écluser ce qui s'est dit dans la presse de cette histoire dans les jours qui ont suivi le 4 février 1912. Et je suis tombé sur ces photographies faites par des journalistes à l'époque. Il y a Franz avant le saut, il y a ce qui reste après l'accident, il y a les gens. Enfin, et ça permet d'avoir accès un petit peu à l'humanité, à l'épaisseur humaine de cette histoire.
Qui veut poser des questions? Il y a par là-bas le micro, là. Où est-ce qu'ils sont? Là.
Par rapport à tout ce qui a été dit, la lecture qu'on a pu entendre, je me demandais si, à un moment donné dans le processus d'écriture, vous ne vous êtes pas senti illégitime de vous emparer de cette histoire, de ce personnage, parce que vous tutoyez Franz, vous mêlez fiction, réalité.
Oui, c'est une vraie question, la question de la légitimité. Dans mon cas, ça s'ajoute aussi au fait que je suis prof de français, en fait, hein, et donc quand même très complexé par rapport au vrai livre des vrais auteurs, ceux sur qui je suis censé faire cours. Je veux dire, faut être un peu fou quand même pour se dire, allez, moi aussi, je me lance. Allez, comme Victor Hugo. Il faut essayer d'oublier la situation dans laquelle on en est. Et effectivement, il y a une illégitimité dans le fait de s'emparer de la vie de quelqu'un qui a réellement existé. Mais c'est aussi pour ça que je lui dis « tu ». Pendant un petit moment, je me suis dit, allez, et si le livre était à la première personne et se mettait dans la tête de Franz? Imaginez le journal intime de Franz, jusqu'au jour du saut, c'était un bouquin impossible. Hein. Mais très rapidement, je me suis dit, mais non, je ne peux pas faire ça. Je veux dire, je ne peux pas me mettre à la place de cet homme, déjà, ce serait artificiel. Comment savoir ce que pensait un homme il y a plus d'un siècle? Je veux dire, beaucoup de choses ont changé. Et moralement, c'est aussi gênant. Donc le tutoiement permet de faire passer quelque chose d'humain, une forme d'émotion, mais qui va vers lui, pas qui se met à sa place. Donc dire ce que je ressens face à lui, par le tutoiement, permet de contourner un petit peu ce problème de légitimité. Et il y avait un autre problème de légitimité, c'était quand je parle un peu de mon grand-père et de mon ami. Donc j'ai fait lire mon texte, alors pas aux personnes concernées, parce que c'est malheureusement impossible, mais à ma mère pour mon grand-père, et aux parents de mon ami Muriel, pour être sûr que rien de ce que j'ai écrit ne pouvait les heurter d'une manière ou d'une autre. Et heureusement, il n'y a pas eu de problème, mais c'est important pour moi d'avoir l'accord de ces trois personnes, donc les parents de Muriel et ma propre mère.
Et pour rebondir, est-ce que vous vous êtes intéressé à une éventuelle descendance de Franz?
Bon, lui-même n'en a pas, comme il n'a pas eu d'enfant. C'est vrai qu'il avait deux sœurs, une venue à Paris comme lui et l'autre qui doit être restée en Autriche-Hongrie. Je ne sais pas s'il y a une descendance. Non, je n'ai pas cherché. En tout cas, il n'y a pas de descendance directe. Tant mieux, parce que c'est plus facile quand même d'écrire sur une page blanche quand on est sûr de ne pas avoir de problème quoi, de cet ordre.
Et sur la descendance d'Antonio ?
Eh bien, si je suis le vrai Antonio et la vraie Emma ont une fille qui est décédée très âgée. Donc elle doit être née en 1910 et décédée vers l'an 2000, quelque chose comme ça. Et je suis tombé sur un article de journal où il y avait une commémoration sur l'aviation et puis il y avait cette dame âgée qui n'a pas connu son père mais qui était liée à l'histoire de l'aviation. Mais elle est elle-même décédée et je n'ai pas voulu creuser. J'aurais peut-être dû, mais je ne voulais pas non plus m'attirer des ennuis en demandant l'autorisation. Parce que ça demeure des personnages un peu secondaires par rapport à Franz et les deux autres.
Mais j'imagine la surprise de voir qu'on parle de son arrière-grand-père dans un roman avec plaisir. Hein. Pas du tout, parce qu'il n'y a absolument rien de méchant. Il n'y a aucun soupçon de méchanceté dans ce roman, d'ailleurs. Et moi, ça me ferait plutôt plaisir. Mais...
Je ne sais pas. Peut-être qu'on réclamera des sous.
Oh, pas toujours penser que les gens sont aussi en demande comme ça. Je pense qu'il ferait mieux que les gens passent là-bas. C'est pas grave.
Vous l'aviez écrit en combien de temps, le livre ?
En tout, ça a duré 4 ans. En tout, avec l'attente pour les réponses des éditeurs, etc. L'écriture elle-même a dû durer 2 ans, 2 ans et demi. Même si le livre n'est pas très long, hein, je suis pas du tout rapide. Parce que j'ai beaucoup hésité, tâtonné, recommencé, refait. Et puis j'ai pas non plus écrit ça en continu parce que j'ai la vie professionnelle à côté et puis la vie familiale. Voilà, c'était pas très rapide.
Merci. Autre question là dans la salle ? Sarah ?
Quel a été l'élément déclencheur de l'écriture de votre roman ?
C'est vraiment la vidéo dont je parlais tout à l'heure. Ou le point de départ, la vidéo.
Autre.
Il me paraît, pour des raisons de date, symptomatique d'un nouveau type de folie qui est une folie technique. Oui. Et puisqu'il utilise des moyens techniques, qui sont des moyens communs, cette folie est pour les autres. Alors, vous voyez, c'est deux nouveaux faisceaux qui n'étaient pas apparus d'abord dans l'histoire de la folie. Et deuxièmement, comment vous traitez un cas accidentel personnel par rapport à quelque chose qui était le dessin d'une vie.
Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de folie hein, chez Franz Reichelt, qui prolonge malgré tout un vieux schéma, l'inventeur, quand on pense, je sais pas, à la recherche de l'absolu chez Balzac, des gens qui sacrifient tout, jusque leur vie, pour inventer quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est un peu qui est vieux comme le monde, en fait, dans ce projet, dans ce rêve qu'on va conduire jusqu'au bout, pas l'ici qui brûle tous ses meubles pour créer les mailles, etc. Mais ce schéma ancien de la folie créatrice, en fait, effectivement, passe par ce qui est tout nouveau à l'époque, par la technique. Et c'est assez symptomatique que cet engouement pour la technologie soit associé à la Tour Eiffel. Parce que la Tour Eiffel, elle date de 1889, donc en 1912, elle a 20 ans, ou un peu plus, c'est encore tout récent. Les Parisiens sont encore... un peu étonné de voir ce grand machin dans leur paysage.
Dont certains grands auteurs ont jugé que c'était vraiment pas terrible, oui, et c'est ça. C'est scandaleux.
Voilà, il y a eu des débats terribles pour et contre la Tour Eiffel. Et la Tour Eiffel apparaît à l'époque comme vraiment le symbole de la modernité dans le monde entier. Peut-être que vous avez déjà travaillé sur Apollinaire et sur Zone, qui est le premier poème d'Alcole, où il y a bergère aux Tours Eiffel. Il y a une image qui associe la Tour Eiffel à une bergère qui surveillerait des moutons, qui sont en gros les immeubles ou les ponts parisien. Et ce qui est très étonnant dans ce poème d'Apollinaire, c'est qu'il associe précisément la Tour Eiffel aux aéroplanes. C'est comme ça qu'on dit les avions à l'époque. Donc Apollinaire, à la même époque, parce que c'est écrit la même année, c'est paru en 1913, c'est écrit en 1912, donc quelques semaines après la mort de Franz, Apollinaire associe la Tour Eiffel, les avions, et lui aussi s'inscrit dans cette modernité, mais une modernité poétique, parce que c'est un recueil de poèmes qui rompt complètement avec ce qu'on a fait avant. Donc oui, une folie moderne, ou renouvelée en quelque sorte, parce que c'est un vieux schéma acclimaté dans la technologie de la Belle Époque. Et votre autre question portait sur l'aspect particulier, oui, singulier.
Vous aviez pris comme point de départ une histoire personnelle, mais qui était accidentelle. Tandis que lui, c'était le dessin d'une vie, mais vous avez déjà répondu initialement.
Oui, c'est difficile de distinguer ce qui est proprement accidentel et ce qui s'inscrit dans un dessin, qu'on écrive dessin avec un i ou un ien, ou un destin, il faut jouer sur les mots. Je pense que ça lui est tombé dessus très vite. Parce que ce projet d'invention du parachute, il ne pouvait pas le concevoir, ne serait-ce que 5 ans avant, puisqu'on est tellement au début de l'histoire de l'aviation que, comme les gens qui, à l'époque, se mettent à construire des avions, eh bien, il y a eu un basculement dans sa vie où, d'un coup, il s'est dit « mais c'est ça ce que je vais faire ». Mais il ne pouvait pas penser à ça lorsqu'il a quitté, par exemple, l'Autriche-Hongrie à 20 ans, à peu près. Donc, c'est un accident qui se transforme, en fait, en destin, mais très brièvement, un basculement.
Alors, les élèves, là, posaient des questions qui sont plutôt chouettes. Et vous avez une autre rencontre. Vas-y, une autre.
Quel passage de votre roman a été le plus difficile à écrire et pourquoi ?
Oui, c'est une vraie question. Le passage qu'a lu Amine tout à l'heure, c'était, je réponds à l'envers d'abord, c'était le plus facile. C'est le tout premier d'ailleurs, ça a un peu bougé, mais c'est ce que j'écris en premier, c'est d'écrire la vidéo. Là, c'est facile, je veux dire, je regarde, j'écris ce que je vois. Ce qui a été le plus difficile, ce que j'ai le plus refait, effacé, recommencé, etc., sont les passages les plus personnels. Surtout ceux où je parle de Muriel, qui devient M dans le texte, pour ces raisons de légitimité dont on parlait tout à l'heure. Et aussi parce que je me demandais simplement si ça avait sa place dans le texte. Parce que ça peut être considéré comme hors sujet. Je veux dire, j'écris sur Franz Reichelt en 1912. Pourquoi est-ce que d'un coup je me mets à parler de mon ami qui s'est suicidé ? Je peux même pas vous répondre, je veux dire. Parce qu'à mes yeux, ça fait un bloc, parce que c'est venu en même temps. Ça fait sens à mes yeux. Mais c'est pas parce que ça fait sens à mes yeux que l'écrire a été évident. Il a fallu passer outre une forme de pudeur naturelle. Et là, Charlotte, mon éditrice, m'a un petit peu encouragé justement à parler un peu plus de cet aspect. À un moment, elle m'a demandé, mais pourquoi est-ce que ça te parle autant, cette histoire ? Et je lui ai dit, mais tu comprends, mon grand-père, mon ami, machin. Et elle m'a dit, mais ça, il faut le mettre dans le texte.
Quel élève de troisième étiez-vous ?
Oula, ça fait longtemps maintenant.
Bon élève à tous les coups.
Oui, mais pas non plus tant que ça. Enfin, non, je sais pas quoi vous dire. Je garde pas beaucoup de souvenirs en fait. Les années du collège, sans histoire, tranquille, ce que j'ai fait. Enfin,
voilà.
Non, c'est plus au lycée que je me suis pris de passion pour la littérature, la lecture, grâce à ma prof de seconde.
Ah, l'importance des profs, c'est surtout à cet âge-là. Hein. C'est important, très important. Je vous souhaite des super profs de seconde.
Est-ce que vous envisagez de faire un autre livre ou pas ?
Oui. Bon, j'ai commencé, mais je suis au tout début. J'aimerais bien continuer, mais déjà, je suis très lent naturellement. Et là, je ne peux pas m'en plaindre, mais le fait d'être invité à parler de celui-là m'éloigne un petit peu du possible au deuxième. Parce que tant qu'on a l'esprit occupé par Franz Reichelt et autres, c'est difficile de laisser la place à d'autres personnages dans un nouveau texte.
Avez-vous envisagé une suite ou une adaptation cinématographique à votre roman ?
Mais en fait, ça ne dépend pas de moi. Une suite, si vous pensez à une suite écrite. Non, il n'y aura pas de tome 2, je ne vais pas faire rebondir Franz et recommencer. Mais une adaptation, je ne sais pas, au théâtre ou au cinéma, ça ne dépend pas du tout de l'auteur. Ça dépend des adaptateurs qui pourraient être intéressés par le texte ou pas. Ce n'est pas arrivé, je ne pense pas que ça arrive.
Ah, c'est ce qu'on peut souhaiter de... On ne peut pas dire de mieux, parce qu'il y a beaucoup de mieux après un concours comme ça. Mais effectivement, pour la vie, tout simplement, de l'écrivain, L'adaptation théâtrale, déjà, c'est pas très compliqué, là, je pense. Quand même, enfin, franchement, il faudra demander à des gens plus compétents que moi. Mais le cinéma, et ça peut être une histoire, mais là, sur l'aviation, beaucoup plus compliqué, un film beaucoup plus intimiste. Pardon.
Oui, parce que déjà, tout ce qui est personnel dans le texte n'aurait pas sa place dans un film sur la vie de Franz Reichelt. Et quand on enlève ça, en fait, il ne reste pas grand-chose. Mon livre, il n'est pas long. Il n'est pas long parce que j'ai fait le choix de suggérer autant que possible. Je préfère que les choses soient dites en pointillés pour que les lecteurs puissent dessiner la robe, par exemple. Je n'ai pas écrit un script archi-détaillé qu'il suffirait de transposer en images. Donc, c'est des arts très différents. Donc, si un jour quelqu'un voulait se lancer dans une adaptation, je serais ravi, mais il ferait forcément une œuvre très différente de ce simple point de départ.
Le cinéma est beaucoup plus long et en fait, ils travaillent sur des éléments très courts. Ils prennent une partie en général d'un roman. C'est un autre travail. Mais ça, vous verrez ça plus tard. Je ne vais pas tarder à conclure parce que je pense qu'il faut que vous dégourdissiez un petit peu les papates avant de réattaquer la suite. Je voulais aussi. Enfin, moi, je pense que les. Là, on a bien donné vie et corps et sang, couleur, sueur à Franz et en même temps aux envolées plus intimes. C'est un peu ce qu'on appelle un tombeau littéraire, oui. Je pense. Et c'est vraiment une grande réussite. On a tous été très touchés. Est-ce que les plus jeunes que moi ont d'autres choses à dire en conclusion ? Sinon, on remercie vraiment pour le roman et puis d'être là avec nous.
C'est moi qui vous remercie d'avoir été aussi attentif et attentif au texte en amont et puis attentif là. Merci beaucoup pour vos questions, pour votre lecture, Amine, et vos questions, Sarah. Vous avez été bien préparée et vous le faites avec beaucoup de maturité et de générosité.